parabole du jour avec le Père Willem.
L'esprit planait sur les eaux. Les juifs, les chrétiens, les musulmans ne peuvent relire l'histoire de l'esprit sans que retentissent à leurs oreilles cet hymne de la création entière que nous avons célébré dans la mission précédente. Être inanimé, être animé, et enfin le premier couple des humains. Il s'agit du commencement absolu de l'origine. Les Hébreux diront qu'ainsi fut la révélation d'une sagesse ou d'une parole. Yahvé, par la sagesse, a fondé la terre, établi les cieux par l'intelligence, par sa science, ont jailli les sources des abîmes et les nuages distillent la rosée. C'est le psaume 3. Car le Seigneur entrera dans ton cœur, et la science sera délicieuse à ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera, dans les Proverbes chapitre 2. L'esprit ou la sagesse exprimera par la suite, par les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements confiés à Moïse par Yahvé sur le Sinaï. La Bible relate souvent dans le désordre des moments importants de la croyance en l'esprit, du moins en un esprit. Il n'y a pas eu de Big Bang spirituel, de chiquenaude initiale qui aurait brusquement fait apparaître l'homo religiosus. Cette expression est employée par les historiens des religions et les anthropologues pour exprimer l'idée que l'homme trouve dans son rapport à Dieu l'explication du monde et le sens de sa propre vie. Comme le dit Fiorenzo Facchino, l'approche du phénomène religieux fait émerger le sens du religieux comme une constante chez l'homme en tant qu'être doué d'une abstraction et de mise en forme symbolique. Le mot religieux, c'est l'être qui prend conscience d'avoir des rapports avec une réalité mystérieuse. On en a connaissance par la découverte de certaines traces dans les grottes préhistoriques, incisions rupestres, dessins, égards envers les défunts. Selon le chercheur roumain Mircea Eliade, l'homme religieusus croit toujours qu'il existe une réalité absolue, le sacré, qui transcende ce monde-ci, mais qui s'y manifeste et de ce fait le sanctifie et le rend réel. Le mot religiosus et l'expérience du sacré sont inséparables. Lorsque nous essayons d'interpréter les gestes des mains levées, par exemple, vers la voûte céleste, nous sommes obligés de penser à notre expérience vécue de manière consciente par l'homme archaïque, à un comportement rationnel avec une réalité mystérieuse et supramondaine. Il faudrait explorer les grands textes fondateurs de toutes les religions pour prendre la mesure de l'universalité des phénomènes. Les paléontologues ont trouvé en Chine des restes d'aliments dans des tombes du 6e millénaire avant Jésus-Christ, ce qui atteste les croyances en une survie. Au 4e siècle, apparemment le yin et le yang, l'ombre, le yin, et la lumière, le yang, qui révèle l'origine de l'origine. Cette symbolique de la polarité et de l'alternance représente la totalité de l'ordre cosmique et de l'ordre humain. Yin et Yang sont inséparables, mais ils ne sont que des modalités du Tao, qui est le principe d'unité, un absolu mystérieux. La quête d'une longue vie et de l'immortalité constitue donc l'objectif central du taoïsme religieux. De l'homme de Néandertal jusqu'aux poètes et aux artistes contemporains, en passant par l'animisme, le spiritisme, les spirituels, les hommes reconnaissent qu'il existe un esprit, une âme dans les êtres inanimés. Celle-ci n'étant peut-être que la leur et qu'ils prêtent. Citons simplement deux grands noms de la littérature française, Alphonse de Lamartine et Victor Hugo, entendant l'un et l'autre le frémissement de la vie à travers l'univers. Les religions, qu'il s'agisse du christianisme, du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme et de l'hindouisme, comptent parmi elles des adeptes qui font une expérience privilégiée de l'esprit, tous. Les mystiques chrétiens, les soufis musulmans, les moines des ashrams hindous. À leur propos, tout en reconnaissant des rites et des dogmes différents, on parlera d'une présence mystérieuse et indicible à laquelle il donne souvent le nom d'esprit, cet esprit qui est partout. Et ce qui est étonnant, dans ce psaume 8, qui remonte à des millénaires, dit exactement ce que nous voulons dire dans la beauté de ce texte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu le veuilles visiter. À peine le fuis-tu moindre qu'un dieu. Voilà ce qu'est l'homme, presque Dieu. Et la révélation du Christ nous dit que l'homme est habité par Dieu. C'est la révélation, le dévoilement de l'homme dans toute son entièreté. Une fois de plus, il faut donc accepter le mystère et plus encore vivre avec lui et de lui. N'est-il pas la source du dynamisme qui nourrit les aspirations sans jamais les satisfaire de façon satisfaisante? L'homme, un être assoiffé d'eau vive. Quelle merveille qu'il ait perçu ce besoin vital depuis des millénaires! L'origine de cette soif remonte à la nuit des temps, nuit épaisse et impénétrable. Les paléontologues et les historiens sont en concurrence pour tenir le fil ténu qui relie l'être humain à son obscure naissance. L'homme est en quête de sa naissance. La Bible, toutefois, éclaire les juifs, les chrétiens, les musulmans. La lumière qu'ils reçoivent leur vient des mythes qui emmènent l'être humain sur les rives du mystère plus que de l'histoire qui les enferme dans le monde des connaissances. Devenons poètes les uns les autres en nous laissant influencer par le Dieu de tous les poètes du monde. Il prend la face de tous les humains pour danser avec eux l'hymne à la joie.